Comment l'IA va-t-elle révolutionner le secteur du retail? Pourquoi le luxe s'empare-t-il de l'IA génératif? Quels sont les cas d'usage? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sur l'impact de l'intelligence artificielle pour le retail et le luxe. Un podcast produit par le collectif d'influenceurs B2B, La Brigade du Web. Je suis Annie Abella, la fondatrice de La Brigade du Web, et aujourd'hui, c'est au tour d'Émilie Marquois et de Jérôme Monange. Nos deux experts vont partager leur vision sur l'évolution du commerce et du luxe. Bonjour Émilie.
Bonjour Annie.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Annie.
Alors en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler que les outils en fait d'intelligence artificielle sont pas si nouveaux que ça. On en parle énormément aujourd'hui, et en particulier dans le secteur du retail et du luxe. Il faut savoir qu'avant l'arrivée de ChatGPT et Midjourney, on utilisait déjà ces outils, mais c'est vrai qu'ils ont relancé la course à l'intelligence artificielle. Et puis j'aimerais rappeler un deuxième point, en l'occurrence c'est une étude qui a été réalisée par Vogue Business qui donne deux chiffres clés que j'aimerais vous rappeler et qui donnera une idée aussi de l'intérêt que les consommateurs que nous sommes portent à l'intelligence artificielle dans les secteurs qu'on va traiter aujourd'hui. Alors le premier chiffre, la première info qui me semble intéressante, c'est que les personnes interrogées dans le cadre de l'étude sont enthousiastes à l'idée que les marques de mode de luxe introduisent davantage d'applications d'IA au cours des prochaines années, donc dans les 5 prochaines années qui arrivent, et surtout elles sont prêtes à dépenser plus, donc c'est au moins plus 20% d'achats si l'intelligence artificielle est utilisée, donc c'est pas négligeable à savoir. Ceci étant dit, voyons maintenant comment les retailers et le monde du luxe peuvent adopter l'IA avec succès pour répondre à cette appétence tout en améliorant leur rentabilité. Alors on commence avec Jérôme qui est là. On va passer en revue pas mal d'usages, de grandes catégories d'usages. Et la première catégorie, c'est l'enrichissement de l'expérience client grâce à l'intelligence artificielle. Alors spontanément, moi je pense tout de suite à l'essayage virtuel. C'est assez sympa de se regarder dans un miroir et puis de voir à quoi on va ressembler avec telle ou telle tenue. Mais j'imagine que ça va un petit peu plus loin que ça. Ça fait un peu gadget comme ça, Jérôme, mais ça va plus loin que ça.
Oui et non, c'est-à-dire que en fait finalement, comme tu le disais tout à l'heure, hein, l'IA c'est pas nouveau, et donc Dior avec Snapchat, hein, par exemple, dès les épisodes du Covid, a eu plusieurs expériences d'essayage de produits en réalité augmentée, et ça depuis 2021 en fait, hein, et donc notamment avec son modèle Dior ID. Donc le but du jeu, hein, évidemment, pour la marque, ça va être de travailler sur les trois éléments clés que sont finalement la conversation avec ses clients, la vente de produits et puis bien évidemment l'expérience client. Et puis plus récemment, Dior, et plutôt cette fois-ci la division parfum Christian Dior, a proposé un service d'essai virtuel de maquillage en réalité augmentée, donc sur son site web. Hein. Et donc là, la maison Dior va effectuer offrir plutôt des expériences d'achat sophistiquées, prestigieuses et entièrement personnalisées pour le client qui va finalement pouvoir essayer le maquillage ou la cosmétique Dior depuis son écran.
Ça, c'est super intéressant. Juste pour rebondir sur ce que tu disais sur Snapchat, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'imagine pas Dior aller sur Snapchat, parce que Snapchat, c'est quand même un réseau qui est dédié à une génération hyper jeune. Est-ce que tu as quelques éléments à nous donner sur ce sujet, justement? C'est l'association entre la cible et une marque de luxe comme Dior et un canal comme Snapchat.
Effectivement, donc aujourd'hui, les marques de luxe hein, vont un petit peu à la chasse à la génération Z et aux millennials. Hein. Et donc, c'est évidemment sur ces médias qui vont notamment pouvoir les captiver et potentiellement les engager et peut-être demain les transformer en clients.
D'accord, super. Merci pour la précision. Et je crois que tu avais un troisième exemple à donner, c'est celui de Zalando.
Oui, alors Zalando, lui, dans la thématique de l'essayage virtuel, ils ont créé un avatar en 3D où vous indiquez votre taille, votre poids, votre genre, et évidemment sur le site. Hein, et donc là, vous avez la possibilité d'essayer virtuellement plusieurs tailles de jeans, hein, parce qu'on sait que finalement le jean c'est ce qui est le plus compliqué à essayer, hein, c'est ce que je disais toujours, plus facile d'acheter un costume qu'un jean, et donc on peut essayer 23 jeans de 4 marques qui ont été sélectionnées par la plateforme, hein, les plus populaires, et donc du coup on va utiliser, du moins Zalando utilise, une combinaison de modèles et de machine learning, de vision par ordinateur, pour prédire si effectivement les articles taille grand ou petit Et autre avantage pour la marque, eh bien, les retours justement liés à la taille ont diminué de 10% par rapport à des articles similaires pour lesquels aucun conseil n'est fourni.
Donc ça, c'est un véritable gain pour la marque finalement, parce que du coup, on sait que les frais de retour, c'est quand même un coût qui est important pour les marques. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle.
Oui, alors c'est le genre de stratégie gagnant-gagnant que j'aime bien, gagnant pour le client en termes d'expérience et puis gagnant pour la marque, bien évidemment, pour cette histoire de retour.
Et si on parle maintenant de clienteling en magasin, qu'est-ce que tu peux nous dire, notamment sur l'exemple de LVMH?
Et évidemment, donc aujourd'hui, on voit que l'IA potentiellement va nous aider dans le parcours client sur le web, via les réseaux sociaux, mais aussi potentiellement, bien évidemment, en magasin. Et lors du salon Vivatech, et bien justement, LVMH a montré sa nouvelle solution de clienteling pour ses vendeurs conseils à destination des clients, donc qui était construit finalement sur un algorithme de recommandation personnalisée. Deux produits justement avec des techniques avancées de deep learning et donc avec l'objectif finalement d'être spécifique au luxe pour pouvoir aussi être utilisé dans diverses divisions de la marque. Et donc ils vont bien évidemment l'utiliser dans le clienteling, c'est-à-dire la relation que le conseiller de vente va avoir avec son client en face à face, mais avec sa tablette, mais demain aussi dans les newsletters personnalisés, pour de l'activation média, et même demain dans le e-commerce. Donc du coup, finalement, il va y avoir aussi une vraie recommandation cohérente pour tous ces canaux différents de la marque.
Donc ça, c'est super intéressant parce que du coup, on a de l'intelligence artificielle à la fois en ligne et aussi dans les magasins avec des conseils et des recommandations. Alors, je te propose de passer au deuxième gros usage possible de l'intelligence artificielle dans ces secteurs, c'est la création de nouveaux produits. Autrement dit, les marques utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre du processus créatif. Alors, pour moi, c'est assez inattendu, mais j'ai vu qu'il y avait des marques comme Acne Studio qui n'avaient pas hésité à créer des modèles de vêtements à partir de modèles proposés par la machine. Et puis, j'avoue avoir été agréablement surprise aussi, c'est cette idée, si je ne m'abuse, c'est Undies qui avait lancé une campagne de communication, une publicité avec des maillots de bain. Autrement dit, comment prendre des personnes en maillot de bain dans une piscine, dans l'eau, c'est jamais évident. Donc, du coup, ils ont préféré faire appel à l'intelligence artificielle. Et ce que j'avais beaucoup aimé surtout, c'est le fait que sur l'affiche, c'était extrêmement transparent, c'est que l'image était produite via l'intelligence artificielle. Et il faut savoir qu'au début, toutes les marques ne le faisaient pas. Donc ça, c'est plutôt positif. Et enfin, dernier point, je te redonne la parole. Qu'est-ce que ça donne dans le métavers, Jérôme, aussi? Parce qu'on en parle moins, mais le métavers est toujours là.
On va dire aujourd'hui que si on prend par exemple l'une des plateformes les plus connues du métavers, qui est Roblox, en 2022, la plateforme avait décompté pas moins de 11,5 millions de créateurs potentiels qui avaient créé de nouveaux modèles, aussi bien d'accessoires que de vêtements. Et ils avaient créé à eux tout seuls 62 millions de vêtements et accessoires. Donc on imagine potentiellement que les marques aussi ont pu trouver un certain nombre de créateurs pour finalement mettre leur logo sur ces créations virtuelles dans le métaverse. Mais par contre, on peut voir des exemples assez intéressants comme Nike, qui lui va solliciter sa communauté dans le métaverse justement pour donner des idées nouvelles de modèles. Ils ont créé une plateforme spécifique qui s'appelle Swatch et grâce à ça, ils ont lancé leur première collection virtuelle qui a été appelée Air Force One, qui était co-réalisée finalement avec la communauté Swatch et qui rend hommage à la Air Force One, une des paires de chaussures les plus emblématiques de la marque. Donc finalement, c'est la communauté qui a créé le modèle.
Ah, super intéressant. Ça, pour rebondir sur ce que tu as dit sur Roblox, ça me fait penser à Actimel qui s'était lancé sur Fortnite pour vendre ses produits aussi. C'était super intéressant. Ça n'a rien à voir avec le luxe et avec le retail, mais on voit que les jeux de vidéo et le gaming, ça attire aussi pas mal de marques de manière générale et que c'est une façon de parler de ces produits-là. Autre cas d'usage, c'est la personnalisation de l'e-commerce. Alors le potentiel de l'IA dans le luxe et le retail, c'est aussi là. Et donc du coup, est-ce qu'on peut se rapprocher justement de maximum de l'expérience en ligne en magasin? Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Est-ce que ça, et surtout quelle forme ça prend? Est-ce qu'il y a des similitudes, des différences? À quoi ça ressemble quand on va en magasin?
Le parallèle, je dirais que c'est Walmart qui vient de le faire. Donc la célèbre chaîne de distribution, c'est quand même la plus grande chaîne de distribution mondiale américaine, qui a présenté au CES par exemple sa nouvelle IA qui va être intégrée aussi bien sur les applications mobiles de ses clients sur iOS ou Android que pour l'expérience utilisateur sur le web. Donc finalement, on voit bien que cette IA a un objectif d'améliorer l'expérience dans la vie du magasin et du shopper en magasin que finalement sur le web. Et donc le but du jeu de cette IA, ça va être justement de comprendre la requête d'un client et puis de pouvoir générer un certain nombre de réponses personnalisées. Et donc on va pouvoir lui poser une question, par exemple, aidez-moi à organiser une fête sur le thème des licornes pour ma fille. Ça devrait t'intéresser. Et alors à ce moment-là, l'IA va répondre et il n'y aura plus besoin d'effectuer des multiples recherches pour trouver les ballons, les serviettes, les serpentins, etc. Ça veut dire que c'est l'IA qui va proposer tout ce qui va bien avec cette thématique et cette fête. D'un autre côté, effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt sur le e-commerce que c'est adapté. On peut prendre l'exemple aussi encore de Zalando, qui lui est en train de tester un chatbot, il n'est encore pas totalement commercialisé, dans le même esprit, un nouvel assistant mode qui va être associé avec la technologie OpenIA pour justement accompagner les clients pour trouver la tenue idéale par rapport à des circonstances, mariage, soirée, dans leur acte d'achat. Donc là, ici, de la même manière, la cliente va demander, ou le client va demander, que dois-je porter pour un mariage en juin à Marseille dont le thème est champêtre, et donc l'assistant mode devra être capable de comprendre qu'il s'agit d'un événement formel, d'identifier les températures normales de cette période et de proposer une sélection de 4 à 5 tenues. Voilà.
Donc c'est très 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 précis, c'est du sur-mesure. Alors est-ce qu'on peut parler quand même de personnalisation très poussée ou pas ?
Alors de plus en plus, de toute façon aujourd'hui l'IA, le but du jeu, ça va être d'amener à la vraie personnalisation. D'ailleurs j'ai écrit un article récemment justement sur la question, finalement 2024 sera-t-elle l'année de l'expérience client ? Enfin, on peut imaginer que avec l'IA on va de plus en plus dans ce sens. Oui.
Alors, on arrive sur un sujet qui m'intéresse énormément, c'est tout ce qui concerne la mode durable. Alors, on sait que de plus en plus de consommateurs veulent acheter responsable. C'est d'ailleurs pour cela que le marché de la seconde main a connu un essor important ces deux dernières années. Je voudrais citer par exemple Vinted. Et dans le secteur du luxe et du retail, ça donne quoi, Jérôme ?
Alors, dans le secteur du luxe et du retail, en fait, le luxe va pouvoir, par exemple, s'appuyer sur la blockchain pour pouvoir créer justement des passeports numériques pour chaque produit, ce qu'a fait les LVMH, par exemple, pour 20 millions de produits déjà dans sa blockchain Aura. Et donc, ça va pouvoir justement identifier le produit et pouvoir finalement lui donner une seconde vie quand il sera revendu. Donc, il va y avoir la certification d'authenticité, bien évidemment, mais aussi finalement le fait de pouvoir lui donner une seconde vie, c'est-à-dire que quand il sera racheté par un autre client, eh bien, on aura cette certification et le fait que ce soit un vrai article. Et donc, la marque aussi pourra se remettre en contact directement avec ce nouveau client et qui a acheté une pièce de seconde main.
Top, super. Ok. Donc, on peut faire énormément de choses donc, avec la blockchain. Et tu voulais me parler aussi des nouveaux liens qu'on pouvait établir entre les clients et les propriétaires, je crois.
Oui, voilà, c'est ça. Cette blockchain va permettre justement de créer ce lien et de créer finalement de la traçabilité. Si on reprend l'histoire de la traçabilité par rapport à la mode durable, eh bien, on voit qu'une marque comme Loro Piana a déjà émis un certain nombre de certificats numériques sur ses collections pour justement garantir la transparence et la traçabilité justement de ses produits en lien avec ses fournisseurs, sa matière première, etc.
Alors, on arrive au bout de ce podcast. Et donc, pour conclure, en fait, j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à l'avenir des outils d'intelligence artificielle dans le luxe et dans le retail. Alors, personnellement, en préparant ce podcast, je m'étais fait une réflexion, c'est que pour moi, le luxe est associé à la tradition. Et finalement, on peut dire que c'est un vrai jeu d'équilibriste à trouver pour les marques comme L'Oréal ou encore Dior que tu as cité. Est-ce que c'est la clé du succès, justement, de trouver cet équilibre entre technologie, innovation et tradition?
Exactement, c'est même la définition du luxe contemporain qui doit être un petit peu finalement dans une stratégie ambiguë entre storytelling, histoire de la marque et innovation. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui que les marques de luxe se tournent vers des clients de la génération millennials qui vont représenter 50% du chiffre du luxe d'ici 2030. Et si on cumule génération alpha, génération Z et millennials, ils seront 80% des clients du luxe. Donc, il faut leur parler. Et évidemment, bah, l'IA, la blockchain, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métaverse, tout ça, évidemment, répond aux attentes de ces nouvelles générations.
Merci. Mais en tout cas, c'est un chiffre important parce que j'imaginais pas qu'on avait autant de millennials justement qui allaient être concernés par le secteur du luxe. Donc, merci Jérôme. Je te redonne la parole, Annie.
Merci beaucoup, Émilie et Jérôme, pour ce débat passionnant. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. En attendant, suivez la Brigade du Web sur X avec le compte @labrigadeduweb et le hashtag LBW. N'hésitez pas à me contacter à annielabrigadeduweb.fr si vous souhaitez faire appel à notre expertise pour booster vos événements et vos contenus. À très vite.
À très vite. Merci beaucoup.
Merci de votre écoute. À très bientôt.